Mes bien chers amis, il est beaucoup question de capital étranger ces semaines-ci, dans les cercles politiques d'Ottawa, dans ceux du Québec, dans les discours d'hommes publics, dans des articles de journaux et de revues. Quelle attitude prendre vis-à-vis du capital étranger? L'accueillir les bras ouverts? Le repousser au nom du nationalisme économique? L'admettre modérément? Tous ne manifestent pas le même empressement. À Ottawa, le Michel Sharp s'est jusqu'ici montré très favorable au placement chez nous de capital étranger. Son prédécesseur, Walter Gordon, ne le voit pas du même œil. Le capital étranger, surtout américain, dit-il, fait de notre pays une colonie économique des États-Unis. Sans le repousser totalement, il faut viser à s'en passer. Ce n'est pas là une question de parti. Sharp et Gordon sont tous deux des libéraux de haut rang. D'ailleurs, un conservateur notoire, George Hees, ancien ministre du Commerce dans le cabinet de Diefenbaker, est du même avis que le libéral Sharp. Il le déclarait encore dans une conférence à Toronto récemment, « Le Canada a besoin d'investissements étrangers parce qu'il manque de capitaux nécessaires à son expansion économique. Le Canada se doit de faire savoir que les capitaux étrangers sont bienvenus chez lui. » Notre premier ministre actuel du Québec, Daniel Johnson, ne pense pas et ne dit pas autrement. Il va sans dire, dit-il, qu'une politique d'accueil s'impose à l'endroit des capitaux étrangers. Il y a tellement à faire chez nous que nous ne saurions y arriver seuls. Nos libéraux provinciaux ont d'ailleurs professé et pratiqué la même attitude. Eux aussi, au nom de la croissance économique de la province. Récemment, Éric Kyrens, un des hauts parleurs du Parti libéral, le répétait. La croissance est un devoir inéluctable, donc il faut investir. Et comme nos Canadiens n'ont pas de quoi investir suffisamment, il faut faire appel au capital étranger. Dans tout ceci, le mot « capital » est employé pour signifier de l'argent. De l'argent ou son équivalent du crédit financier, des moyens de paiement. Ce qu'on appelle capital étranger, c'est donc de l'argent venant de l'étranger. Cet argent peut entrer chez nous sous deux formules, comme investissement et comme prêt. Si une compagnie américaine ou étrangère quelconque établit une filiale dans notre pays, c'est de sa part un placement de ses capitaux. D'autre part, quand notre gouvernement, nos administrations municipales, ou d'autres corps publics n'ont pas assez d'argent pour des développements qui s'imposent, ils empruntent. Il leur arrive alors de faire ces emprunts à l'étranger, peut-être plus souvent qu'au Canada, lorsque les maisons financières étrangères sont plus accueillantes, que le taux d'intérêt exigé par elles est moins élevé. Lorsqu'il est question d'argent, les considérations de frontières, de nationalité, de culture, de langue, de possibilités d'assimilation ne comptent guère. Cela, c'est bon pour les personnes. On a bien, en effet, un ministère de l'immigration et des règlements établis pour admettre ou refuser ou trier ou contingenter l'entrée chez nous d'hommes venant d'autres pays. Mais il n'y a point de ministère pour l'immigration de l'argent. L'argent jouit d'une sorte de transcendance en tout et partout. Considérez, par exemple, la différence d'accueil que reçoivent chez nous des étrangers qui viennent chercher de l'emploi et ceux qui viennent se promener en touriste. Les premiers viennent avec leurs bras pour nous aider à produire. On les regarde de travers, comme des voleurs de notre gagne-pain. Les autres, les touristes, en viennent avec des poches garnies d'argent pour manger du pain fait par nous, pour se faire servir par nous. Or, on se dispute le privilège de les recevoir. Donc, à Ottawa, deux as du Parti libéral, le ministre actuel et l'ancien ministre des Finances, entretiennent certaines divergences de vues à l'égard du capital étranger. L'actuel très en faveur, l'ancien recommandant quelques mesures de freinage. Les deux ont leurs partisans, du moins chez les membres du parti qui se croient encore le droit d'exercer leur ménage. En diplomate, le premier ministre Pearson a décidé la formation d'un comité ministériel chargé d'élaborer la politique du Canada sur les placements étrangers dans notre pays. Pearson a commencé par faire entrer Walter Gordon dans le cabinet fédéral dont il ne faisait plus partie depuis les dernières élections. Le comité est justement présidé par ce Walter Gordon, mais Mitchell Sharp en fait partie, ce qui permettra aux deux points de vue de s'expliquer. En font aussi partie le registraire général intérimaire John Turner, le ministre des anciens combattants Roger Taillé et le ministre de la main-d'œuvre et de l'immigration Jean Marchand. Ce dernier, Jean Marchand, est supposé l'interprète de toute la députation québécoise au Parlement fédéral. Comme Jean Marchand ne sent pas généralement le besoin de se renseigner avant de porter jugement, on connaît déjà sa position sur la question. Parlant à Saint-Jérôme, dans la première fin de semaine de janvier, il a ridiculisé toute prétention à un nationalisme économique non seulement provincial, mais à la grandeur du Canada. La force technique et financière des Américains, dit-il, envahit le monde entier, et sans elle, il n'y a rien à faire. Seule la Russie soviétique peut s'y comparer. Donc, hormis les États-Unis et l'URSS, aucune véritable indépendance. Les États-Unis, dit-il, possèdent la technique, le savoir-faire et l'argent. Les autres pays ne l'ont pas. Conclusion, prétendre s'affranchir du besoin de capital étranger est une utopie. Et pour bien marquer que c'est une utopie, Jean Marchand dit à son auditoire, quand bien même Québec déciderait de passer une loi pour décréter que la Lune doit cesser d'influencer la marée, la Lune continuera d'influencer la marée. C'est peut-être dit avec un grain d'esprit, mais ce qui fausse la comparaison de Marchand, c'est que, dans le cas de la Lune et de l'océan, on a affaire à des réalités, tandis que, dans le cas de l'économie actuelle, il s'agit d'une Lune artificielle, l'argent, à laquelle on confère, par une acceptation injustifiable, le droit d'influencer toute la réalité économique. M. Marchand dit vrai quand il déclare « Il n'y a pas de politique même valable sans la vérité économique », mais il est moins exact dans sa définition de la vérité économique. La vérité économique, dit-il, c'est que les États-Unis mènent et vont mener longtemps encore sur le plan technologique. Entendu, mais ce n'est là qu'une partie d'un fait économique. Si les États-Unis sont en avant des autres sur le plan technologique, cela ne signifie pas que les autres pays, que notre Canada par exemple, soient totalement dépourvus en capacité de production et qu'ils doivent recourir à du capital américain ou autre capital étranger pour mettre en œuvre les réalités matérielles, techniques et autres dont ils disposent chez lui. Si le Canada était le seul pays au monde, s'il n'y avait ni États-Unis, ni Angleterre, ni Europe, ni Asie, rien que le Canada, avec ses richesses naturelles actuelles, ses développements actuels, sa population actuelle, ses connaissances techniques actuelles, quel capital étranger faudrait-il attendre pour fournir à la population canadienne les biens et services dont elle a besoin, pour mettre en œuvre sa capacité de production, pour développer encore cette capacité de production? Évidemment, on devrait se passer des choses que la population canadienne est incapable de produire, sans passer au moins jusqu'à ce qu'elle soit devenue capable de les produire. Et c'est là le point. Le véritable capital, vous devez bien le savoir, Monsieur Marchand, ce sont les richesses naturelles, ce sont les outils, les machines, c'est le savoir-faire, c'est la compétence et la bonne volonté des producteurs, c'est l'ordre social qui permet la distribution des tâches, qui permet à l'agriculteur de se livrer tout entier à la production agricole, à l'industriel de se concentrer sur un rayon de production et ainsi des autres spécialisations, d'où un volume global de biens hors de toute proportion avec ce que serait ce volume total si chacun devait faire tout de A à Z pour lui-même et sa propre famille. Soumettre ces réalités, ce véritable capital existant, le soumettre à la présence ou à l'absence de l'argent, c'est simplement une absurdité. C'est l'argent qui doit être soumis à la présence et au degré de la capacité de production. Quand cette capacité de production existe dans un pays, l'argent, pour la mettre en œuvre, doit être une création de ce pays. Une création, une représentation chiffrée de cette capacité de production mise à la disposition des producteurs pour mobiliser les divers facteurs de production. Une comptabilité suivant le mouvement de la richesse, fournissant les crédits financiers pour la production de richesses, les retirant au rythme de la disparition de richesses par consommation, usure ou destruction. Le Canada n'est pas seul au monde, non, et cela lui permet d'obtenir des biens d'autres pays qu'il ne peut pas produire lui-même, mais qu'il compense par les exportations de surplus de sa propre production. Il ne peut être question de capital étranger, d'endettement envers l'étranger, que pour ce qui dépasse la capacité actuelle de la production domestique. Rien que cela. Si, par exemple, on veut établir un nouveau moulin à papier, existant des constructions, des installations de machines, un service d'alimentation d'eau, une installation électrique, etc., pour une valeur totale, disons, de 50 millions, est-il besoin d'un apport de capital étranger de 50 millions? L'entreprise peut nécessiter de la machinerie fabriquée seulement à l'étranger pour une valeur peut-être de 5 millions. Pour ces 5 millions-là, il faudra du crédit financier étranger, mais pas pour les matériaux provenant de l'industrie canadienne, ni pour leur transport d'un endroit à l'autre du pays, ni pour les ingénieurs sur place, ni pour la main-d'œuvre, ni pour aucun des items de 45 millions se passant d'importation. De même, pour les installations hydroélectriques, le ciment, le bois, la main-d'œuvre, le génie, tout cela est fourni par la province elle-même. Autant de choses qui n'ont pas besoin d'un seul sou de capital étranger. Ainsi, des exploitations minières et de cent autres entreprises. Il n'y a pas de politique économique valable sans la vérité économique. Bien dit, Monsieur Marchand, mais vous n'avez pas l'air de savoir reconnaître la vérité économique là où elle est. Vous constatez bien la prépondérance américaine, mais quel cas faites-vous des possibilités canadiennes actuelles? Celles-ci doivent-elles être ignorées devant celles-là? Ne sont-elles pas, elles aussi, une vérité économique existante? L'application d'un système monétaire de crédit social sur lequel, monsieur, vous crachez soutenant ou pour des motifs intéressés, permettrait une très large mesure d'indépendance économique, non seulement à l'égard du capital étranger, mais aussi à l'égard d'institutions financières de notre propre pays, qui ont accaparé et qui contrôlent le crédit appartenant à la nation elle-même. Le crédit social libérerait le peuple qui produit des griffes des faussaires actuellement légalisés qui l'endettent, le volent et le saignent.